Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Papy Carnet.
Comment lutter efficacement contre les gangs dans les grandes villes de la RD Congo? C'est le sujet qui va être abordé tout à l'heure avec notre invité Norbert Lepetit. Il est criminologue et spécialiste de l'enfance marginalisée. Il est en ligne. Norbert Lepetit, bonjour.
Bonjour mon frère.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. En RDC, les gangs commettent de plus en plus de forfaits. Ils sont souvent munis de machettes, de morceaux de bouteilles et d'autres armes blanches. Dans bien des cas, ils agissent au vu et au su des agents de l'ordre. Alors que faire pour les lutter efficacement contre les gangs dans les grandes villes? C'est le sujet qui va être abordé avec Norbert Lepetit, les criminologues et spécialistes de l'enfance marginalisée. Vous avez des témoignages, vous voulez parler de ce qui se passe chez vous, vous pouvez nous appeler au 081-890-6394 ou nous faire aussi un SMS au 081-711-5001. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur la page Facebook au Capi Service. Norbert Lepetit, ce phénomène de gang est décrié dans presque tous les grands centres du pays. Il y a des jeunes qui terrorisent paisiblement la population, vit aussi des agents de l'ordre, et bien souvent la population se plaint. Comment se fait-il que on le retrouve après qu'il soit arrêté à Kinshasa, par exemple, avec les phénomènes Kuluna? On ne cesse pas d'enregistrer des cas par-ci, par-là, travers la ville, mais c'est des gens qui n'arrêtent pas de narguer la population. Comment faire pour lutter efficacement? Quelles sont les pistes de solutions à même de combattre ce phénomène?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je crois que nous devons bien commencer,
oui,
avant de présenter comment lutter contre les phénomènes des gangs. Moi, je considère qu'il serait d'abord primordial de commencer par montrer comment naissent les gangs, vous voyez.
Oui.
Parce que les gangs, ce sont des formations sociales qui naissent dans un contexte tout à fait particulier. Je pense que pour bien relancer les débats, avec votre autorisation,
oui, allez-y.
Vous pouvez m'accorder quelques minutes pour présenter, pour peindre le contexte dans lequel naissent les gangs. Ça va?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Ok. Lorsqu'on interroge plusieurs théoriciens, ils énumèrent six matériaux qui font que les gangs naissent. Et c'est autour de ces six matériaux que l'on va essayer d'échanger avec les nombreux auditeurs qui nous suivent. Le premier matériau qui est à la base de la naissance des gangs, c'est d'abord les familles inadéquates, c'est-à-dire des familles vulnérables. Alors, le deuxième matériau, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et le troisième matériau, c'est un environnement détérioré. Le quatrième matériau, ce sont des religions inefficaces. Le cinquième matériau, c'est une éducation défaillante. Et enfin, le sixième matériau, des loisirs inexistants ou mal organisés. Voilà en fait un tas de choses qui font que, si nous réfléchissons comme des sociologues, toutes choses restant égales à elles-mêmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà.
Voilà, vous avez cité, vous avez parlé des matériaux pour parler simplement des causes, hein, si j'ai bien compris. Donc, vous avez parlé de familles inadéquates, de la pauvreté, de l'environnement détérioré, vous avez quand même associé des religions inefficaces, on a également réclamé l'éducation différente et du loisir inexistant. Donc c'est là l'ensemble de causes, une fois réunies, permet de voir naître ces phénomènes de gang. Est-ce que toutes ces causes, on peut le mettre sur le même pied d'égalité? Il y a des causes qui sont beaucoup plus radicales, qui amènent plus à ce qu'il y a, ces phénomènes de gang.
Merci beaucoup de la question. Généralement, dans une explication multifactorielle,
oui,
les mêmes facteurs n'ont pas le même poids. Mais cela nécessite d'autres études,
oui,
pour essayer d'apprécier tel ou tel, quel est le facteur qui serait le plus pondérant. Mais généralement, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs qui est à la base de la naissance des gangs. mais il est possible que telle ou telle cause puisse émerger que les autres. C'est ça.
Alors voilà, vous avez parlé de religion inefficace, c'est-à-dire que les pasteurs ne font pas leur travail comme ils se doivent, ou bien il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là.
Donc, en fait, moi je me range derrière les théoriciens, oui. Et vous allez voir que lorsque ces éléments-là sont réunis absolument, ne cherchez pas à vous demander pourquoi vous avez des gangs dans des centres urbains.
Oui.
Donc, le terrain est déjà préparé. Parce que la gang, en fait, s'est définie comme quoi ? C'est en fait une formation sociale qui répond à une désorganisation de la société, c'est ça. Les gangs, c'est en fait un mode de fonctionnement tout à fait particulier qui fait fi à l'ordre établi, qui fait fi aux coutumes. Mais pour cela, il faut que le terrain permette cela. Et ce terrain est caractérisé par tous ces éléments que je viens d'énumérer.
Alors, si on doit tenir compte de tous ces éléments, avant de passer déjà à un auditeur qui est en ligne, il s'agit de Omar Kigalo, qui nous appelle de Kinshasa. Quand vous avez parlé des familles inadéquates, parce que s'il faut déjà, à ce niveau, avoir une idée sur les pistes et les solutions, quelles sont les pistes par rapport à toutes ces causes que vous avez énumérées, quelles sont les pistes à même d'être mises en œuvre pour combattre ce phénomène?
D'accord.
On peut avoir une idée, je disais avant de recevoir l'auditeur en ligne, si déjà vous pouvez donner quelques pistes de solutions avant d'accorder la parole au premier auditeur en ligne.
Ah, merci beaucoup. Je pensais que la question était adressée à notre auditeur.
Non, non, donc, c'est vous l'invité.
Vous verrez qu'au regard de ces six éléments que j'ai énumérés,
oui.
Que le problème des phénomènes des gangs, c'est un problème extrêmement complexe. Et les gangs naissent dans une désorganisation sociale.
Or, oui.
Quand on connaît une désorganisation sociale, il faut repenser l'ordre social en place. Il faut soigner la société. Vous voyez, la société doit se refaire. C'est ça. Donc, de manière générale, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et comment la société se refait? Les six éléments que je donne là indiquent les axes d'intervention. Il faut donner de la force aux familles. Il faut enrayer la pauvreté. Il faut travailler sur l'environnement. Voilà comment je réponds. Donc, la naissance des gangs appelle la société à se refaire, à refaire son ordre fonctionnel.
Voilà, 081-890-634, c'est le numéro que vous appelez, 081-711-5001. 711-5001, c'est pour les SMS. Vous voulez donc intervenir par rapport à ce sujet. Comment lutter efficacement contre les gangs dans les grandes villes de la RDC? Vous pouvez nous appeler à ce numéro-là dans les 081-890-6004. Nous ferons un SMS, 081-711-5001.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur RadioCapi.net.
Omar Kigalo, vous nous appelez de Kinshasa, vous êtes en ligne. Bonjour Omar.
Bonjour et bon début de semaine à vous Marcel et à l'invité.
On vous écoute, quelle est votre question?
Merci beaucoup Marcel, j'apprécie beaucoup la démarche de l'invité, car vous savez que la criminologie est très importante pour ce jour. Ça nous permet de ne pas nous attaquer aux faits, mais plutôt de rechercher les causes pour de bonnes solutions. Alors, comme vous l'avez dit, les gangs sont aujourd'hui monnaie courante. Moi, j'habite dans un quartier vraiment qui vit cela, c'est à Yolo. Vous avez les gangs chaque jour. Et ce qui est écœurant, c'est que les gangs sont souvent contre des jeunes. Alors, il a parlé de causes. J'ai vraiment aimé. Mais je voulais qu'il marquait sur les inégalités sociales. J'ai lu un criminologue qui s'appelle Freud, je crois que c'est un psychologue. Il a dit qu'il risque de faire que des crimes se commettent pour établir l'équilibre dans la société. Lorsque dans une société des inégalités sociales, on voit marcher avec une voiture, l'autre n'a pas de voiture, ça crée une haine et ça provoque la fracture. Et deux, il y a un problème de traitement qui n'est pas bien approprié. Dans toutes les prisons aujourd'hui, ou dans toutes les maisons d'arrêt pour les enfants, on met des psychologues. Parce que les enfants-là ont développé une certaine amanie. Il y a des gens qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne commettent pas l'infraction, ils ne dorment pas bien. Alors lorsqu'on les arrête, il n'y a pas un traitement approprié et ils sortent, ils sont toujours criminels. Et aussi, il y a une certaine impunité. La fonction a aussi une peine de dissuader les autres. Lorsque ces jeunes commettent des abus et que l'État ne réagit pas, ça continue à gérer. Alors je pose ma première question, M. Fossel, à l'invité. Est-ce que parmi les causes qu'il a citées, oui c'est bien beau, les causes exogènes et endogènes, est-ce que peut-on aujourd'hui parler des criminels nés, tels qu'évoqués par César Lombroso, le criminologue italien, qui disait il y a des gens qui sont nés criminels. Et si cette théorie peut encore être évoquée aujourd'hui, quel est le traitement approprié pour soigner de telles personnes? Je rappelle que cette théorie a aussi soutenu par Barrault et Ferry. Et deuxième question, l'invité a parlé de six facteurs, famille inadéquate et éducation défaillante. Comment il peut expliquer cela? Parce que quand il dit famille inadéquate, il fait exactement allusion à quoi? Et quand il dit éducation défaillante, il fait allusion à quoi? Et pour finir, Marcel, il a parlé des loisirs inexistants. Qui peut le citer parce que l'émission Patrick Service est une émission pédagogique et nous apprenons quand nous le suivons. S'il peut nous citer quels sont ses loisirs pour que les jeunes comprennent afin qu'on explique tous ces convives. Voilà ma préoccupation. Je vous remercie beaucoup, Marcel Ngombouba.
Merci, Omar Tigal. Vous intervenez de Kinshasa. Patient, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour, patient.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Patrick Tshitoko à Lubumbashi au Katanga.
On vous écoute, patient Tshitoko.
Oui, moi, je vous dirais ceci. D'ailleurs, je regrette beaucoup pour ce problème de cas. Bon, en première position, je vais poser la question à notre invité. Pourquoi il y a la complicité entre les gangs et les gens d'ordre? Et en plus, la deuxième question. Pourquoi le patrie n'est pas organisé efficacement dans notre pays et surtout dans nos provinces? Et en troisième position, l'année qui faisait les contrôles aujourd'hui et ne les fait pas comme il faut, c'est l'année qui arrête aujourd'hui les gens pour légiférer. Et puis, les gangs ont des armes. Les gangs ont des armes. Comment peut-on savoir que ces armes, puisque nous tous nous connaissons que c'est l'État qui fournit les armes. Alors, les armes-là, qui
possède les gangs. Voilà. Merci à Patient Tshitoko du Lubumbashi dans le Katanga. On revient à vous, à Norbert Lupiti. Vous êtes criminologue et spécialiste de l'enfance marginalisée. Vous avez suivi toutes ces questions et préoccupations de Marty Gallo que vous appelez de Kinshasa. Vous voulez d'abord savoir est-ce que on peut encore parler de criminels nés et puis quels sont les traitements appropriés pour les criminels nés?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et je remercie tous les intervenants de l'intérêt qu'ils accordent à cet échange. Je suis très fier de l'intervention de monsieur Omar de Kinshasa. Et je ne sais pas, beaucoup de choses me viennent en tête quand il parle des criminels nés. Mais c'est une émission de la radio qui se passe en quelques minutes et ceci ne nous permet pas de nous étendre correctement sur ces questions tout à fait complexes. Oui. Est-ce que nous pouvons encore parler des criminels nés? Mais je vais dire à mon ami, je crois qu'il le sait parce qu'il est criminologue, que la notion de criminel né fait partie des toutes premières notions que Lombroso a lancées pour tenter d'expliquer de manière vérifiable le phénomène criminel. Mais déjà très tôt, depuis plusieurs années, ces théories ont présenté des faiblesses. Et elles ont été dépassées. Il en est de même des théories psychologiques qui parlent de la personnalité criminelle. Et ici, je remercie l'intervenant parce qu'il me permet de fixer mon propos. Vous allez voir que parce que les théories biologistes développées par Lombroso, les théories psychologiques ont présenté des faiblesses, c'est plutôt maintenant la perspective sociologique qui fournit une explication plus ou moins solide lorsqu'on cherche à comprendre le phénomène criminel. S'il faut maintenant me demander si parmi les brigands que nous avons au Congo, il y a des criminels nés, moi, je marque mon doute. Parce que la criminologie actuelle nous montre que le criminel n'est plus laid, mais le criminel est tout à fait normal. Il est partout, il est dans toutes les couches sociales, dans toutes les ethnies, mais c'est plutôt la société qui constitue le brouillon favorisant l'éclosion des comportements problématiques.
Donc, par rapport à toutes les
voilà ce que je peux dire par rapport à la première question. Mais par rapport à la deuxième question, il veut savoir ce que j'entends par famille inadéquate.
Oui.
Mais par famille inadéquate, je l'ai dit, ce sont des familles vulnérables, des familles impuissantes par rapport à la prise en charge correcte et totale des responsabilités qui leur incombent. C'est ça ce que j'appelle famille inadéquate. Donc ce sont des familles fragiles, des familles vulnérables par rapport à leurs responsabilités. Et le monsieur Omar de Kinshasa, il pose encore la troisième question sur les loisirs, les types de loisirs. Je sais, ici nous devons être corrects. Je sais que le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, pendant les vacances, il essaie d'organiser quelque chose pour essayer d'encadrer les jeunes au titre des loisirs. Mais, à mon avis, ceci n'engage que moi-même. Très souvent, ce sont des permesses que l'on ouvre par-ci par-là. Il est plus conseillé. Si on me demandait un conseil, moi, je me prononcerais beaucoup plus en faveur des loisirs à caractère éducatif. Est-ce que ça se fait? À nous d'interroger la RDC. Ça, c'était par rapport à M. de Kinshasa. Par rapport à M. Kitoko...
Non, Kitoko de Lubumbashi, oui.
De Lubumbashi, il fait un constat, je le lui impute. Il constate qu'il y a une sorte de complicité entre les gangs et les éléments de l'ordre. Mais je crois qu'il peut avoir raison parce que, en réalité, comme il l'a dit aussi à travers une autre question, qui est censé détenir les armes? Mais ce sont les agents de l'ordre, c'est la police, c'est l'armée. Mais si aujourd'hui nous trouvons les civils, civils entre guillemets, avec les armes à feu, mais nous devons nous poser la question, quelle serait l'origine de ces armes? Et alors, je crois que c'est une grande question. Je suis tenté de partager partiellement son raisonnement pour dire que si aujourd'hui les civils ont l'accès facile aux armes, certainement quelque part, il pourrait y avoir une complicité. Ok, voilà ce que je puis dire.
Voilà, nos amis Patience Kitoko et Omar Kidiallo ont suivi vos interventions par rapport à leurs préoccupations, mais si on doit revenir sur les causes dont vous avez cité les familles inadéquates, la pauvreté, l'environnement détérioré, vous avez parlé également de la religion efficace et puis de l'éducation défaillante et aussi des loisirs inexistants, mais il faut aussi qu'on les attaque. On ne peut pas attaquer toutes les causes au même moment. Pensez-vous que il y a des causes pour lesquelles l'État peut déjà s'y mettre de manière à ce qu'on puisse quand même avoir quelques résultats parmi toutes ces causes énumérées?
Bon, moi je considère, ceci n'engage que moi-même,
oui.
Si vous examinez la nature des facteurs sociaux qui sont énumérés,
oui.
Vous allez voir que la pauvreté passe pour la racine principale. Parce que lorsque la pauvreté bat son plein, on ne sait pas bien payer les familles, vous voyez?
Oui.
On ne sait pas améliorer l'environnement. Et même les religions, et ici nous sommes peut-être encore tentés de revenir à la vieille thèse développée par Karl Marx, selon laquelle la base matérielle détermine la superstructure. Vous allez voir que lorsque la pauvreté bat son plein, même les religions censées véhiculer la morale exemplaire, patauge aussi, patauge, l'éducation patauge, les loisirs aussi, il n'y a pas moyen de les organiser. Donc, ceci n'engage que moi-même, je considère que l'État doit faire un effort pour essayer d'éliminer la pauvreté en RDC.
Voilà, Norbert Lopiti, on poursuit avec vous, on va accueillir Audi Bendelo qui nous appelle de Kipeti dans la province du Bandundu. Audi Bendelo, bonjour.
Bonjour, Martin Ngombombala, et bonjour à M. Norbert Lopiti. Je vous souhaite aussi bon début de semaine à tous ceux qui nous entendent à ce moment.
Vous avez la parole,
merci beaucoup. Question.
Merci. Ok, merci Marcel. C'est ça vraiment inquiète tout le monde, Marcel. Vous savez, les mois passés à Tiflis, des gens armés ont causé des désastres. Il y avait même des cas de morts. Et deux semaines après les dégâts, l'un des brigands était reconnu par un malade à l'hôpital général de référence de Tiflis 1, transféré au parquet. Jusqu'au moment où je parle de M. Marcel, on n'a plus des informations sur ce dernier. Il y a des coins ici à Tiflis, s'il vous plaît, M. Marcel, dont il était possible de passer vers 19h20. à cause de ces gangs. Et là, je voulais poser la question à M. Norbert Lupici. Ayant fait toutes ces analyses et nous donner plusieurs causes qui sont à la base de ces crimes, je voulais poser la question de savoir qu'est-ce peut-il proposer comme piste de solution à tous ces désastres. Merci, M. Marcel. C'était là ma seule question.
Merci, Audi Bengelo, depuis Kipit, dans le Bandoudo, Norbert Lupici.
Merci beaucoup. Moi, j'aime souvent dire que, au grand mot, des grands remèdes. Lorsque j'introduisais mon propos, évidemment en accord avec les auteurs tels que Jacques Fagé, il présente les gangs comme le fruit. C'est une réponse. Donc la naissance des gangs, c'est une réponse à la désorganisation de la société. En fait, la désorganisation sociale, c'est quoi? C'est-à-dire que l'ordre en place, l'ordre instauré par l'État, perd son efficacité. Et ce que fait l'État, certains groupes sociaux trouvent qu'ils n'y voient pas leur compte. C'est ainsi qu'ils s'organisent. Ils s'organisent comme ils peuvent pour essayer, comme disent d'autres auteurs, de répondre au manque. C'est-à-dire de chercher ce que la société ne fait pas pour eux. Vous voyez. Et je l'ai déjà dit, quelles sont les pistes de solutions? La société doit se repenser. Elle doit se repenser. Et peut-être là, je vais encore rappeler les propos de mon premier intervenant, M. Omar de Kitapa, oui, qui a parlé des inégalités. Le premier indice de la pauvreté, ceci n'engage que moi-même, ce sont les inégalités. Lorsqu'on voit monsieur à manger, moi je ne mange pas, mais je vais chercher un autre moyen. Quelle que soit la méthode utilisée, c'est pourquoi les auteurs disent que les gangs, c'est une réponse. Hein, c'est une réponse à un manque que la société ne s'est pas donné. Voilà un peu. Donc la société doit se repenser. La société doit travailler pour éliminer la pauvreté, pour éliminer les inégalités sociales. C'est vraiment compliqué. Voilà.
Madame Émilie nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga. Madame Émilie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, madame. Quelle est votre question?
Merci beaucoup. Hein. Ce n'est vraiment pas une question, mais mon souci est que... Bon, merci beaucoup parce que c'est un sujet très captivant, mais moi je considère que l'invité n'a pas pu tenir compte du passé. Qu'est-ce que j'entends par là? En époque coloniale, il y a eu le phénomène Kindoubine, où les jeunes gens s'étaient mis à imiter les acteurs du cinéma, et comme il fallait vraiment repousser le colonisateur, c'est pourquoi il fallait avoir des morceaux de bouteilles, de ceci, de cela, pour faire du mal à tous ces blancs qui étaient venus pour la colonisation. Et à part ça, ils se mettaient dans des coins pour déranger les gens, etc. Et c'est ce qu'on a appelé le phénomène Kindoubine à l'époque. Je ne sais pas si il a invité en sait quelque chose, ou à l'époque du temps de Mobutu après la colonisation, on a recruté tous ces jeunes, tous ces gangs, pour nous placer dans le mouvement de la jeunesse, ce qu'on a appelé le jeune père, je crois que ça veut dire quelque chose. C'est vrai, comme il l'a dit, la société doit vraiment s'impliquer, tout le monde doit s'impliquer sur le fait qu'on ne peut pas garder des bandits dans notre entourage. Ça c'est vrai, il faut qu'il y ait de l'emploi pour éviter la pauvreté, etc. Mais mon grand souci est que moi, comme je suis historienne, je considère que l'histoire est écrite, l'histoire se répète, et que tout est parti du phénomène qui nous boule de l'époque et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est ça ma petite contribution. Merci.
Merci, Madame Émilie de Lubumbashi, dont on vous a pris donc de cette ville dans la province du Katanga. Nous allons accorder la parole à Christophe Sambika qui nous appelle de Kindu dans l'Imanima. Christophe, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également les équipes. Merci beaucoup pour le sujet combien de langues que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. C'est très important. Moi, je suis à Kindu, mais je dirais qu'à Kindu, ce phénomène n'a pas d'ampleur comme dans d'autres villes. Je viens de Goma, j'étais à Kinshasa il n'y a pas très longtemps. Et je dirais que, comme disait l'invité, ce phénomène, c'est une juste conséquence du désordre de la société. Des organisations plurielles sociales, comme il a dit. Donc, quand on voit une société désorganisée, nous disons à la tête de toute société, vous avez l'État.
Oui.
Il y a quelqu'un, un invité qui disait que, un auditeur qui disait que il y a une collaboration franche, visible et ouverte entre les gens de l'ordre et ces gangs-là. Quand vous arrivez, par exemple, à Goma, vous prenez ces gens qui sont en train d'arrêter les gens au vu aussi, vous les pensez, vous allez les déposer à la police, mais le soir même, vous allez voir les mêmes gens en ici et vous dire qu'est-ce que vous croyez.
Alors, qu'est-ce qu'on
vous avez cru comprendre.
Ça, c'est l'observation que vous avez faite qui n'est pas mauvaise. D'ailleurs, un auditeur l'a souligné. Quelle est votre question maintenant?
Mais je voudrais dire ceci.
Oui.
Quelle est la solution solide ou efficace pour que ces gens apparaissent, pour qu'ils disent l'organisation de la société? Est-ce que ne peut-il pas, lui, l'inviter? Ne peut-il pas faire un clair pour dire que c'est le désordre de l'État? En cas de mort, moi, je dirais que c'est l'État qui est inefficace. S'il n'est pas efficace, même les églises et les religions pourraient s'organiser. Parce qu'il y a une période, on a les dernières décisions. Merci beaucoup.
Merci Christophe. Syndicat du Piti de Don Limanima, Norbert Lupiti. Vous avez suivi Madame Émilie qui nous a appelé de Lubumbashi dans les Katanga, qui a évoqué un phénomène qui a existé à l'époque coloniale, même après. Hein. Il a parlé du phénomène Kindu-Bilé. Et puis, il y a également Christophe Samika du Kindu qui a dit quelle est la solution durable pour combattre ce phénomène. Norbert Lupiti.
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Et je remercie également tous les intervenants. Je voudrais d'abord faire une petite mise au point. En ma qualité d'invité, je ne peux pas me targuer l'honneur d'avoir vraiment les meilleures solutions, non. Moi, je pense à ma qualité d'intellectuel, je fais une analyse et je soulève un débat, et chacun peut y contribuer, comme l'a fait Madame Émilie. Merci beaucoup. Alors, concernant l'intervention de Maman Émilie, qui est historienne, je me réjouis certainement. Il nous a été appris que l'histoire nous aide à bien comprendre le présent et à prévenir aussi, à bien préparer l'avenir. Elle a donné une expérience que je ne connais pas très bien de Kindu-Bilé. Mais par contre, le terme Kindu-Bilé aujourd'hui réapparaît comme un langage de l'argot parlé par les jeunes en situation de rue. Cette expérience, certainement, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas connue, mais heureusement, elle-même, elle a dit que tous ces jeunes gens qu'on a appelés Kindu-Bilé ou qui appartenaient au Kindu-Bilé ont été récupérés par la jeunesse, par la JMPR. Moi, je considère l'intervention de Mme Émilie comme une expérience à essayer. Donc, c'est pas la première fois que notre pays connaît ce genre de gangs. Ils ont déjà eu lieu, ils ont eu naissance dans notre pays. Et certaines mesures avaient été appliquées. Alors, il est tout à fait intéressant qu'on puisse interroger l'histoire pour voir ce qui avait été fait à cette époque-là. Par rapport à l'intervenant de Kindu, il est tout à fait estomaqué de constater qu'il y a une certaine connivence entre les gangs, les éléments des gangs, les jeunes voyous et les éléments de la police. Bon, c'est vraiment dommage. Et ceci me pousse en ma qualité de criminologue à proposer des solutions très rapides.
Oui.
Si on me proposait, on me demandait de suggérer quelque chose, je vais d'abord suggérer des mesures à appliquer dans l'immédiat. Bon, lorsque nous définissons les gangs comme une formation sociale qui s'oppose à l'ordre établi, nous devons réveiller l'État. Quand on parle de l'autorité de l'État, c'est-à-dire quoi? L'État doit assumer ses responsabilités. L'État doit réussir à imposer son ordre pour le bien-être de toute la nation. Et puis, nous devons considérer aussi que, dans notre pays, les jeunes n'ont pas que des droits. La nouvelle loi sur la protection des enfants est très claire. Les jeunes gens, bien que l'État doit se démener pour les mettre à l'aise, mais ils ont aussi des obligations. Quelles sont leurs obligations? Je n'ai pas la loi avec moi ici, mais vous verrez que les jeunes ont l'obligation de préserver l'ordre public. Ils doivent protéger la nation, ils doivent du respect vis-à-vis des personnes supérieures, ainsi de suite. Donc, dans l'immédiat, moi j'inviterai l'État à prendre toutes ses responsabilités pour mettre hors d'état des murs. Ça, c'est à court terme.
comme autrefois là j'avais parlé des unités spécialisées de la police qui sont formées. Il faut intervenir directement pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Et maintenant, à long terme, c'est alors qu'il faut maintenant bien repenser les grands facteurs, les six facteurs principaux à la base de la naissance des dents. Ça, ça nécessite des mesures de grande envergure et à long terme. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Norbert Loupici, merci à vos mondes d'avoir répondu à notre invitation à cette question des auditeurs sur ces sujets, comment lutter efficacement contre les gangs dans les grandes villes de la RD Congo. Merci, à une prochaine occasion.